Le cours était marqué à 15h30. Qu'est-ce qu'on fait ? On va aller chercher ?
réfléchir un peu sur ce problème. Et puis, progressivement, nous verrons comme ça. Et vous-même, travaillez-le dans la mesure où vous le pouvez. C'est-à-dire, si vous pouvez, il y a tel ou tel philosophe qui vous intéresse, travaillez tel ou tel philosophe sur ce problème-là pour essayer de mieux comprendre ce que cela signifie au plan philosophique. Je regarde donc la philosophie grecque et puis nous regarderons la philosophie, la théologie de saint Thomas. En philosophie grecque, saint Thomas du reste souligne lui-même le mot « personne » n'existe pas tel qu'on l'emploie en latin. Donc c'est un mot latin. Alors est-ce que c'est caractérise la philosophie latine? Ou est-ce que c'est un mot qui caractérise le fait de la philosophie chrétienne? C'est très curieux de voir que, de fait, le problème de la personne a pris une très grande importance en théologie. C'était en théologie que le problème de la personne a pris une très grande importance. Alors, est-ce que cela fait partie de ces problèmes de philosophie chrétienne? Et on peut se poser la question. C'est pas si commode que ça d'y répondre. Ça fait partie de ces interrogations qu'on doit se poser quand on aborde ce problème de la personne. Donc, en philosophie grecque, le mot personne, prosopon, n'existe pas, si ce n'est que pour le théâtre. Prosopon, c'est le masque. Et c'est là où on voit le langage et la signification du langage a quand même quelque chose de très très différent. Prosopon, le masque. Et saint Thomas nous dit qu'au point de vue philosophique, il ne faut jamais s'arrêter au mot. Il faut se demander si la réalité existe. Or, je crois qu'on peut dire que la réalité de la personne humaine existe. Chez Platon, chez Aristote, chez les stoïciens et le néoplatonisme. Alors, si vous les regardons, ces quelques positions. Chez Platon, le problème de la personne s'identifie au problème de l'âme. C'est intéressant parce qu'on retrouvera ces positions, comme toujours la philosophie grecque, c'est le fondement, c'est la source. Alors ce sont des positions qu'on retrouve après. Donc, chez Platon, on peut dire que le problème de la personne s'identifie avec le problème de l'âme immortelle. L'âme immortelle existe avant d'être unie au corps. Et donc, elle a sa propre identité avant d'être unie au corps. Elle existe en elle-même. Et elle existe en vivant une vie contemplative, unie à la contemplation des dieux. L'âme humaine va être unie au corps en raison d'une faute, à cause de la faute, il y aura une espèce de peine où elle sera unie au corps. Le corps devient comme une limite à ce que représente l'activité de l'âme, puisque le corps sera le tombeau de l'âme. Problème de l'individualité chez Platon. Vous voyez que tout de suite, il y aura deux problèmes qui vont se toucher. Le problème de l'individualité, le problème de la personne. On pourrait dire que chez Platon, il n'y a qu'un problème d'individualité. Et que le problème de la personne, c'est l'âme. personne. On se demande s'il n'y a pas un petit Roland platonicien dedans. Chez Platon, je crois que c'est assez net. L'âme seule a sa finalité, qui est la contemplation. Et elle est une personne, elle est sujet des diverses opérations, mais surtout la contemplation. Et parce qu'elle a perdu sa finalité, elle aurait été unie au corps. Et par là, elle est individualisée. Elle est alourdie. Elle devient une partie. Et à cause de ça, elle devient une partie d'une communauté. L'âme, normalement, ne devrait pas faire partie d'une communauté. Et elle fait partie d'une communauté à cause du corps. On comprend que c'est le tombeau de l'âme. Faire partie d'une communauté, c'est lourd, 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 lourd. Alors on voit très bien ce problème platonicien du corps qui fait que l'âme devient partie d'un tout. Et au fond, ça a été le gros problème de Platon. Sans nommer le point de vue de la personne, ça a été le gros problème de Platon d'essayer de comprendre les liens entre l'âme spirituelle, immortelle, et le point de vue de la politique, par où l'homme, par le corps, est parti d'une communauté politique. Et le problème explicite de la personne, cherchez bien le lexique de Platon, vous ne verrez pas personne. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Platon a senti très fort l'absolu de l'âme immortelle. Et ça, il faut le reconnaître. Est-ce sous l'influence de l'Inde? Est-ce sous l'influence de Socrate? C'est sûrement sous l'influence de Socrate. Est-ce que l'Inde a joué là? C'est possible. Par le point de vue de la contemplation et le primat de la contemplation. Le primat de la contemplation n'est pas spécifiquement grec. Il est beaucoup plus religieux. Alors évidemment, les influences religieuses chez Platon sont multiples. Et il ne faut pas considérer uniquement l'Inde, parce qu'il y a des influences spirituelles diverses, pythagoriques. Du point de vue des Alléates, qui a joué un rôle important pour Platon. Donc, poser ce problème tout de suite, l'âme spirituelle qui a son autonomie et le lien avec le corps qui est accidentel, qui est passager, puisque l'âme a existé sans le corps. Et que l'âme demande d'exister un jour sans le corps, une fois qu'elle sera suffisamment purifiée. Oui, ça donne un sens très très grand aux purifications. Les purifications sont capables de changer l'état de l'âme, d'être séparée, au contraire d'être unie au corps. Donc ça va loin. Deuxième position, Aristote. Dans la philosophie d'Aristote, il n'y a pas aussi le mot prosopone. Personne, ça n'existe pas. Dans le De Anima, puisque c'est le De Anima qui est l'étude du vivant et du vivant spirituel, on sait très bien que le très gros problème d'Aristote, qu'il n'a pas résolu, qu'il est resté avec un point d'interrogation, c'est le lien entre la phusis et le nous séparé. Quel lien y a-t-il entre les deux? La phusis, par où nous sommes partis de l'univers. L'homme est parti de l'univers parce qu'il est parti de l'univers, il a une nature. développement de l'âme spirituelle. Tandis que le problème d'Aristote, c'est le problème de la phusis, le problème de la nature. L'âme, l'homme, est partie de l'univers. Il a une nature déterminée. Et cependant, il a en lui une étincelle de divin. La nature, pour Aristote, est toujours liée à la corruptibilité, le monde sublunaire. Tandis que le nous est lié à quelque chose qui est au-delà de la corruptibilité. Le nous est divin. Il a quelque chose d'éternel en tant qu'il est divin. Il est divin parce que il est au-delà de la matière, séparé de la matière. Et Aristote pose cette séparation du nous en s'appuyant sur une donnée traditionnelle. Anaxagore avait déjà dit que le nous s'est séparé. Et que c'est grâce à cette séparation que le nous est capable de commander. Aristote voit dans le nous aussi la séparation. Mais il ne dit pas que c'est à cause de ça qu'il peut commander. C'est la très grosse différence entre Anaxagore et Aristote. C'est qu'au point de vue du nous, il y a toute une purification qu'Aristote fait qu'Anaxagore ne faisait pas. C'est que le nous est premièrement contemplatif. Ça, il le doit à Platon. Ça, je crois que le nous contemplatif, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Même si Aristote reconnaît que l'exercice de l'intelligence, le nous traduisait, c'est très difficile à traduire. Hein. Parce que si vous traduisez l'intelligence, le mot intelligence en français est tellement appauvri. Alors c'est l'esprit. Et l'esprit ne traduit pas non plus très bien. Parce que c'est plus précis. C'est très difficile à traduire. Le nous Aristote. Le nous séparé d'Aristote est très difficile à traduire. On peut serrer ce que ça signifie en voyant toute la problématique du De Anima. Vous voyez, si vous prenez l'esprit, on verrait tout de suite un lien avec l'aspect substantiel. Et donc, il y aurait beaucoup moins de tension. Ce qui est très difficile, c'est de montrer les liens entre le nous et la psyché. La psyché est substance. Et la psyché, l'âme, est liée au corps. Tandis que le nous, il peut être au-delà. Alors évidemment, on parlera d'une âme noétique. Et l'âme noétique, alors, c'est l'esprit. Je crois que dès qu'on parle de l'âme noétique, c'est tout de suite l'esprit. Parce qu'alors, il y a l'aspect substantiel et puis l'aspect de l'opération. Le tout s'est ordonné à l'opération. Ce qui est sûr, c'est qu'un des grands problèmes d'Aristote, pour ne pas dire le problème fondamental d'Aristote, ça ne m'étonnerait pas. Je vous ai déjà dit. Je crois que tout le platonisme, c'est le problème de l'âme. Et tout l'aristotélisme, c'est le problème aussi de l'âme, lié au nous et lié au corps. Chez Platon, l'âme immortelle est intelligible directement par elle-même, puisqu'elle a conscience d'elle-même et qu'elle était contemplative avant d'être unie au corps. Donc il y a une autoconscience immédiate. Pour savoir si c'est imaginatif ou pas imaginatif, ça c'est autre question. Mais pour Platon, c'est très net. Il y a une autoconscience. sur elle-même, parce que c'est, ce serait déjà ajouter quelque chose de plus. Elle, et elle est d'autoconscience, parce qu'elle est contemplative. Mais ce que nous disons, si vous voulez, des anges, Platon le dit de l'âme spirituelle. Ah, vous ne parlez pas beaucoup de l'autoréflexion des anges. Ce que l'ange a besoin de réfléchir sur lui-même, ou est-ce qu'il a une lucidité suffisamment grande pour que tout de suite il se connaisse. Nous avons besoin de méditer et de réfléchir sur ce que nous sommes. Est-ce que les anges ont besoin de méditer, sont jamais dérangés par la communauté? Bienheureux anges, ils n'ont pas de charge communautaire. Invoquez Saint-Michel quand vos charges communautaires sont trop fortes, parce qu'ils comprennent ça très très bien. Les anges n'ont pas de charge communautaire, aucune. Ils ont une espèce d'autonomie royale, absolue. Et pour Platon, l'âme est comme ça, au point de départ. Tandis que pour Aristote, Aristote étant beaucoup plus dépendant de l'expérience, Aristote ayant un sens critique beaucoup plus développé, ce que Platon, c'est intuitif. Ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est que nous sommes des êtres capables de progresser dans la connaissance. Donc notre connaissance est donnée dans une ligne de progrès et non pas dans une ligne de retour sur un état primitif archéologique assez particulier, la réminiscence. Mais c'est très important de saisir, je crois, que le problème fondamental de Platon, c'est l'âme mortelle. Et le problème fondamental d'Aristote, c'est de saisir cette âme liée au nous, donc liée à Dieu, et l'âme liée au corps. C'est dit textuellement dans le De Anima. Est-ce que l'âme spirituelle, est-ce que l'esprit implique une nouvelle substance? C'est pareil. Et on sait très bien que dans les interprétations qui ont été données par Aristote, on trouve des interprétations de son sens qui prouvent bien que c'est pas si clair. De Anima est très difficile à bien comprendre. C'est un très beau livre. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, je crois qu'on peut le lire même si on est théologien. Parce que c'est un livre qu'il faut avoir lu dans sa vie. Le De Anima d'Aristote est une très très belle chose. Et c'est dans le De Anima d'Aristote, je crois, qu'on voit l'interrogation d'Aristote qui demeure. Platon a prouvé l'immortalité de l'âme. Aristote n'a jamais prouvé. Simplement affirmer que le tout s'était séparé. C'est pas la même chose. Il faut bien comprendre la différence. Donc, vous voyez que le problème de la personne chez Aristote se pose d'une façon très très différente. Le problème de la personne chez Aristote va se poser de maintenir l'unité dans la complexité. Vous le voyez tout de suite. Au niveau du De Anima, la diversité des niveaux de vie. Et cependant, l'unité au point de vue de l'âme. La diversité au niveau de vie et l'unité au point de vue de l'âme, parce que l'âme est au niveau de l'être, alors que la diversité des niveaux de vie sont au niveau des opérations. Mais le De Anima ne suffit pas pour comprendre ce que c'est que la personne chez Aristote. C'est en éthique. Vous voyez, tout de suite, ça nous montre que le problème de la personne est difficile à cerner. C'est la philosophie de l'âme. Le mot n'y est pas. Mais être capable de bonheur. Oui, l'animal n'est pas capable de bonheur. Le chat, même quand il miaule auprès du feu et qu'il a chaud, il ne connaît pas le bonheur. Il connaît une certaine jouissance, je crois. Je crois qu'il connaît certains. Finalité qui définit la personne, c'est l'être dans ce qu'il a d'ultime, c'est l'être en personne d'Aristote, il faut regarder philosophie du vivant. Philosophie première, éthique. Il y a les trois. Et c'est intéressant parce que ça montre bien, vous voyez, que le problème de la personne n'est pas étudié pour lui-même. Mais il y a là des éléments extrêmement intéressants. Si je vais au-delà du mot pour saisir la réalité, je peux dire que ce problème est au cœur de la philosophie d'Aristote. Le nous, l'âme et le corps, la contemplation et l'amitié. Après Aristote, nous avons toute la philosophie stoïcienne. Alors certains diront que c'est chez les stoïciens que le problème de la personne s'est posé en premier lieu. D'une certaine manière, c'est peut-être un peu vrai. Mais le mot prosopon n'est pas, c'est proairesis, qu'on traduit personne. C'est très curieux. Parce que ça nous, le problème de la liberté. Les stoïciens sont les premiers philosophes grecs qui sont les philosophes de la liberté. Alors, le problème de la personne se trouve lié au problème de la liberté. Ce qui n'est pas du tout explicite chez Platon et Aristote. Le problème de la liberté, c'est-à-dire le problème du choix. Un choix par rapport à sa finalité. Une personne, c'est celle qui a choisi. C'est celle qui sait choisir. Quelqu'un qui ne choisit pas n'est pas une personne. Et c'est l'acte humain dans toute sa force. L'acte humain dans toute sa force, c'est le choix. S'orienter, choisir. Ça implique le point de vue de l'intelligence et le point de vue de la volonté. Ça implique le libre arbitre. Et au fond, c'est l'acte du libre arbitre. Et la personne doit se définir par le point de vue du libre arbitre. Ça, c'est tout à fait stoïcien. C'est chez les stoïciens qu'on trouve en premier le problème du libre arbitre. Vous ne le trouvez pas chez Platon, ni chez Aristote. Alors, il y a donc là un problème qui nous très fort la pensée stoïcienne. Et dans la pensée stoïcienne, individu et personne ne font qu'un. Tout simplement parce que pour les stoïciens, il n'y a pas d'âme séparée. Et c'est impossible de concevoir une âme séparée. La réalité existante soit une personne ou un individu, ça revient au même. C'est le problème de ce qui existe. Ce qui existe est toujours lié aux sensibles. C'est chez Épictète qu'on voit le mieux. Épictète, c'est l'esclave devenu philosophe. C'est peut-être l'homme qui a le plus de sens dans toute la philosophie grecque du problème de la liberté. Je crois qu'on peut le dire. Liberté de l'intérieur. La vraie liberté, elle est intérieure. La liberté extérieure, pour lui, est très secondaire. Ça, il subit toute l'influence platonicienne. Aristote dirait pas tout à fait la même chose. Parce que pour Aristote, la liberté extérieure est essentielle. Tandis que pour les stoïciens, non. C'est pour ça qu'ils arrivent à dire cette chose étonnante. Si ton ami meurt et que c'est pas toi qui l'as tué, t'inquiète pas. Puisqu'on ne doit s'inquiéter que de ce qui dépend de nous. Tout ce qui ne dépend pas de nous, on ne s'en inquiète pas. à son temps à lire Épictète. C'est quand même le grand philosophe de la liberté chez les Grecs. Et on voit bien que pour lui, le nœud de la personne, c'est dans le choix. Proairesis. C'est ça le nœud. Et allons un peu plus loin. La personne se noue dans la conformité à la volonté de Zeus. Tant qu'on n'est pas en conformité à la volonté de Zeus, des dieux, on n'est pas parfaitement libre. Donc n'est parfaitement libre que celui qui se conforme à la volonté de Zeus. Vous voyez, il y a quelque chose de très intérieur, grand, qui évidemment est de l'ordre de l'exercice de nos opérations et pas du tout de l'ordre de l'analyse. C'est descriptif, mais c'est très beau comme vision intérieure que la personne humaine, c'est la personne religieuse. De la contemplation.